Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour un petit quart d'heure de questions et réponses. Qui souhaite intervenir?
Thank you for both the presentations. Stephanie, my name is Samson Salamat, and I come from Center for Human Rights Education based in Pakistan. This is a newly established Center for Human Rights Education, although we have a very strong and prominent civil society in Pakistan, but this is a first kind of institution that has been established in Pakistan, particularly to focus on human rights education. So first of all, I thank you very much for your presentation and appreciate the work that your organization is doing. My question would be a little bit, you know, broader, I think, and I would be very much interested to know the amount of work that you are doing in different areas. What do you see the impact of the work that your organization has done so far, and what have you observed is the best practice that you have seen so far while working for human rights education? And lastly, my organization will be very much interested to have, you know, your thoughts about, you know, how can we collaborate since we are working on the same objectives with the organization. Thank you.
Je vous propose qu'on fasse une série de questions. Merci. Oui, Abdoulaye.
Voilà, bonjour. Moi, je voudrais poser une petite question à Stéphanie qui a parlé de la formation en droits humains. C'est vrai. Je peux poser une question. Peut-être que l'information ne m'est pas arrivée correctement. Vous n'avez pas parlé des modules. Hein. C'est là où ma question, c'est par rapport au contenu des modules. En Suisse, vous avez quand même certaines communautés africaines qui vivent ici. Alors, si le centre suisse doit faire des modules de formation en droits humains, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un volet concernant certaines pratiques traditionnelles dites néfastes?
Ok, merci pour cette communication. Et je suis Ki Fatmata, je suis conseiller en droits humains au ministère des droits humains et de la promotion civique. Et dans ce ministère-là, nous avons une direction qui s'appelle la direction de l'éducation aux droits humains. Donc nous avons une direction qui consacre et qui fait ce travail-là. Maintenant, je voulais savoir quelle est la meilleure stratégie pour justement intégrer les droits humains dans les systèmes formels d'enseignement. Voilà, merci.
Oui, Lydia.
Merci. Lydia du Burkina. Donc, j'ai une question pour M. Ramdan. Vous avez dit que le milieu académique ne s'est pas beaucoup intéressé au système de l'EPU. Est-ce qu'on ne peut pas lier ça un peu à la relative nouveauté de mécanisme, ou bien c'est selon vous un désintérêt? Ensuite, vous avez parlé aussi du fait que les États sont moins enclins à critiquer d'autres États. Est-ce que aussi il n'y a pas, c'est pas dû à une politique de deux poids deux mesures qu'on constate un peu souvent dans les relations internationales? Est-ce que ça ne discrédite pas un peu aussi le système? Merci.
D'autres questions? Jane, là tu prends cet anglais.
Hello, I'm Jane Larson, coming from International Media Support in Copenhagen, and we work with media development. I would like to ask you what are your reflections, both of you, on what the interface can be between educational institutions and media, and how educational institutions can possibly use media to spread the word to the larger publics. Thank you.
On va déjà répondre. Ah, non. Amina encore, on prend encore une question, on fait une réponse globale.
Alors, c'est Amina du Maroc. Alors, dans l'EPU, il y a les États qui sont à la fois alternativement juges et examinés. Alors, ma question, est-ce que les intérêts économiques entre différents États ne faussent pas un peu le jeu de l'examen de l'EPU?
Bien, merci. Donc, on va tenter une réponse globale à ces questions. Stéphanie, d'abord.
D'accord, merci. Alors, merci beaucoup pour toutes les questions. Ouais, c'est assez varié, donc je vais essayer d'y répondre assez vite quand même. Au niveau de l'impact de notre travail, je pense que l'éducation aux droits humains, c'est un processus très très long. Donc c'est difficile de voir les résultats le jour même. Bien sûr, on essaie toujours d'avoir des procédures d'évaluation pour voir si déjà les méthodes qu'on a utilisées, c'était les bonnes. Mais puis au niveau de l'impact qui est plus long terme, là, je pense que les résultats se montrent surtout au niveau politique déjà. Donc là, par exemple, en Suisse, on travaille sur un Lehrplan, curriculum, c'est quoi ? Curriculum. Ah, les programmes pour l'école formelle, en fait, pour intégrer l'éducation aux droits humains dans l'éducation formelle. Parce que pour le moment, en Suisse, c'est pas standard. Il y en a, mais c'est pas standard. Puis, bien sûr, on voit aussi qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aux droits humains. Et je pense que ça, c'est un des impacts qu'on voit. Mais bien sûr, là, c'est difficile de dire si c'est nous, si c'est Amnesty, si c'est d'autres organisations. Je pense que ça, c'est un effort commun. Et nous tous ensemble, nous avons... c'est un des résultats qu'on a vus. Puis au niveau... et je pense que c'est aussi là où il faut travailler plus avec les médias. Parce que là, au moment, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même d'utiliser les new media, social media, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'en Suisse, on ne l'utilise pas encore assez souvent et qu'on pourrait quand même toucher un public un peu plus grand, plus... et surtout les jeunes, ils aiment bien ça. Et moi, j'ai déjà vu que si je travaille avec les jeunes ou quand je travaille avec les jeunes et on utilise les médias, ils sont toujours plus intéressés quand on utilise les médias que si on fait juste quelque chose sur papier. Donc là, je pense qu'avec les médias, il faudrait certainement faire un peu plus. Oui, l'intégration dans le système formel, comme je dis, c'est surtout à travers les plans d'études et tout ça, parce que c'est quand même là où ça commence. Mais puis aussi la formation des enseignants. Donc même en Suisse, les enseignants, ils ont beaucoup de liberté quand il s'agit d'implémenter les plans d'études. Donc déjà, si les enseignants, ils ont ce savoir et ce savoir-faire, je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Et encore vite, pour les practices néfastes en Suisse, là, on met pas le focus là-dessus, mais quand même, ce qu'on a fait en fait l'année passée, on a fait une traduction d'une brochure sur la mutilation génitale qui a été produite par une organisation romande. Et donc nous, on a fait la traduction en allemand et la brochure est maintenant disponible. Mais pour autant que je sache, pour le moment, c'est la seule chose qu'on a fait sur ce sujet. Mais c'est clair qu'on travaille avec beaucoup de communautés différentes en Suisse. Mais je pense que ce serait une bonne proposition de travailler là-dessus un peu plus. Et ce serait intéressant de parler avec vous plus tard, tout à l'heure peut-être. Et bien sûr avec vous sur le Pakistan pour la collaboration, volontiers. On pourra en parler tout à l'heure aussi. Merci.
Merci Stéphanie. Alors, réponse, Ramdan, meilleure stratégie, intégration des droits de l'homme, deux poids, des mesures et les médias.
Oui, alors, on va commencer. Je vais commencer par ce sur quoi je ne suis pas compétent. C'est la question des médias. Donc, je suis désolé, mais je pourrais pas répondre. Encore que en matière d'éducation aux droits de l'homme, évidemment, il faut exploiter tous les vecteurs, tous les supports. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, j'en viens à la première question qui m'a été posée, à savoir que est-ce que les milieux académiques ne se sont pas emparés de l'EPU parce que c'est une nouveauté. Vous avez partiellement raison. C'est vrai que c'est une nouveauté. Elle a à peine, on est au deuxième cycle. Et le premier cycle, il a duré 4 ans. Mais on aurait pu quand même essayer de tirer des bilans provisoires de manière justement à aborder le second cycle avec plus de, on va dire, avec plus de pertinence. Alors, toujours dans votre question, il y a la question de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire si les États interviennent à propos de certains États et pas d'autres. Ça rejoint un peu la question que me posait tout à l'heure Amina sur justement les intérêts économiques dans l'intervention des États. Vous savez ce que dit, ce qu'écrivait Friedrich Nietzsche ? Il écrivait que l'État est le plus froid des monstres froids. Donc la raison d'État, il ne faut jamais oublier, elle est toujours là, que ce soit pour des intérêts stratégiques, économiques, culturels, qu'importe. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus renoncer. Parce que dans le PU, si vous ne prenez que le marteau, ça ne sert à rien. Si vous ne prenez que l'enclume, ça ne sert à rien. Dans le PU, il faut combiner à la fois l'action des associations, de ce qu'on appelle la société civile, et les relais éventuels qui peuvent être pris par des États. Qu'il n'y en ait pas beaucoup, vous le savez, je le sais. Mais ça suppose également de ne pas renoncer. Donc voilà pour la réponse à votre question et je crois aussi la réponse à la question de Amina. Merci.
Bien, merci Amnan. Est-ce qu'il y a encore nous deux questions ou sinon on... Oui, Gbemi.
I have a question for Stephanie and also for Prof. My question to Stephanie is just to find out if you are working with the Human Rights Education Association, because it's also a similar body, and I think there is a lot of online distance training. I'm not sure if your training is only based in Switzerland, but it's very important because the cost of coming for a training, even sponsoring partners to come for a training four times a year for modules, it's unimaginable. So thinking of distance courses might be also very useful, like the human rights education. And then I want to ask Prof. There was a statement you made, and you said there has never been an appeal on the non-compliance of states to the recommendations from the human rights body, UPR, or any other body. I just want to share perspective from the field with you. I work in Eritrea, but I come from a country that was noted as a transit, a source, and also a destination country for human trafficking. When the Palermo Protocol was passed, while the provisions and the recommendations had no legal tool to hammer down the Nigerian government to take action, I want to ask you, because you are in the academia, if you have legal norms that has no root in social norms, can it stand? And I observe that a lot of issues by the civil society coalition when it came to trafficking, the dialogue that came from them, the media pressure, the international, the CNN, all of them together, it was a dialogue coming up on the issues around harmful practice of trafficking. This pushed the government to respond to their legal obligation because they had already signed the Palermo Protocol. And this was what led to having a legislation in place in Nigeria. But if you had passed the legislation in my country without the understanding from the civil society, trafficking was going to go underground. So the reason I'm asking you is that I work in the field and I see the professionals, the academia, the lawyers having a major role. It is not because UPR is new. My thinking is that sometimes, because in some of the countries, every international obligation sets the benchmark for legislation, which we call domestication. So if the international standards are not there, if the dialogue does not start at the UPR, CRC, whatever level, what would be the benchmark for the legislation that we have at the national level? So the reason I'm asking this is because I see an interaction between what is going on in the in the normative framework of the UPR or treaty bodies, and what is going on in the legal norms. So if there is no coalition between them, honestly, development will go back to zero. So the reason I'm saying this is that we need the academia. We need not just having everything in law, which becomes a policy evaporation, but we need you guys to take a look at, yes, there is no legal binding right now, but you are the people to push for this. You may be based here, which everything can be very smooth, but I'm based back in Africa, that it takes so much, and without these international tools, I have nothing to tell the Eritrean government to take an action. So most of the time, I pick the recommendation and I use the peer pressure from the other states to say that every country, like you said, they are very careful about their image. Image making is political. And the reason why the government of Nigeria responded to trafficking was because it was everywhere. So it became an issue, a national agenda. So I see the partnership, but the concern is it has to start somewhere and we have to work together. Otherwise, you will see the thinkers here in Geneva, all over the UN, and then the implementers cannot operate. So there must be a kind of coalition between all the stakeholders. Thank you.
Bien, merci Gbemi. Alors je vais donner la parole à Stéphanie Aramdan et on conclura.
Okay, so thank you very much. And maybe two remarks on our course. Yes, we do work with Human Rights Education Associates, and maybe for those who don't know this organization, I guess it's one of the biggest NGOs working in human rights education. They are based in the US, and they do a lot of work both in terms of distance learning, but also in terms of research. And they also do a lot of, they've got different newsletters that you can subscribe to, and you get loads and loads of information about what's going on in human rights related themes all across the world. Yes, I do think that distance learning programs are a good alternative, but I also think that our program is complementary to what they are doing because their courses are very specific to one topic. They are pretty short courses, even though they take 6 or 12 weeks, but they are very limited in terms of what you can actually do in this short time. I think they are great if you're really interested in one topic. I did one course with them, and I found it really, really useful. What we are trying to do is to do the whole thing more from a more practical point of view. So what we are trying to do is to really show people how can they teach human rights in practice. And I think that you cannot do that via distance learning. What we are trying to do, I said that we've got 4 modules, but in total it's about 300 hours of work. So we have a combination of distance learning and modules where you have to actually come to Switzerland. And I just put the study structure here. So the first module is basically just about human rights in general, and then the second one about human rights education. The second one about human rights education, either at school or in a non-formal context. And that's actually where you work with your own context. So you come with your work and you say, I need to do that, that, and that. How can I do it? And you cannot do that via distance learning. Also this was the third module. The second module is actually more about getting to know different institutions, and that's where we go to Strasbourg and also to Geneva. It depends a bit on the program. And yes, of course, I have to come here for that. I'm aware that it costs a lot. It is expensive, and that's why we try and offer these fellowships or scholarships. We are also trying to get more and more of those, but we as well depend on external funding for that. We cannot pay them ourselves, so we work with different foundations and try and get more of those. But yes, I think we need a combination of distance learning and whatever it is, and in-class teaching. Thank you.
Merci Stéphanie. Donc Ramdan va avoir la tâche de répondre à l'énorme question de Gbemi, mais qui est une question très importante. C'est vrai, que faire quand on n'a pas de chercheurs, quand on n'a pas d'outils de promotion auprès des populations, notamment dans le cadre de la traite. Donc Ramdan, un petit mot à ce sujet pour aider nos amis à continuer malgré tout.
Ouais.
Si vous voulez, le chercheur, il intervient d'abord en amont pour faire connaître le phénomène, on va dire, de la traite. Ok ? Ça passe par des études, ça passe par des enquêtes, etc., etc. Mais si ce chercheur se double d'un militant, il intervient également en aval, c'est-à-dire plus en avant, de manière à fournir des idées, des instruments pour justement combattre le phénomène. Et donc, quand vous parlez des avocats, quand vous parlez des associations, oui, parce que, si vous voulez, je crois que c'est une des phrases qui traverse la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne défend pas uniquement ses droits, mais on défend les droits de tout le monde. Et donc, chacun est comptable de la violation des droits des autres personnes. Je ne sais pas si vous avez eu un jour l'occasion d'aller au musée du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Actuellement, il est en travaux. Mais quand vous rentrez sous le comptoir, il y a en gros caractère une phrase de Dostoïevski. Il est écrit « Tout le monde est responsable de tout devant tout le monde ». Tout le monde est responsable de tout devant tout le monde. C'est la phrase qui est inscrite au fronton du musée du CICR. Donc, je ne vois pas quoi d'autre à ajouter. Maintenant, Monique, si tu permets, je reviens un peu en arrière. Tout à l'heure, il y avait une question sur quel principe adopter pour l'éducation aux droits de l'homme. J'anticipe un peu, parce que demain, j'interviens devant vous sur l'éducation aux droits de l'homme. Mais il y a déjà un premier point à dire. C'est que la manière dont sont enseignés les droits de l'homme, cette manière renseigne beaucoup plus sur le pouvoir du maître que sur les droits de l'homme. Et donc, dans l'éducation droits de l'homme, une fois, il faut accepter ces deux principes de base. Dans l'éducation droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle une dimension cognitive, transmettre des connaissances. Là, on est dans la partie enseignement. Il y a aussi une autre dimension, c'est transmettre des comportements et des valeurs. Et donc, une éducation aux droits de l'homme qui ne respecte pas les droits des autres est contre-productive. Donc, il faut partir de ces deux principes, c'est que l'éducation aux droits de l'homme, c'est les droits de l'homme par l'éducation, transmettre des connaissances, mais c'est aussi les droits de l'homme dans l'éducation, transmettre des comportements. Voilà, merci.
Très bien, merci Ramdan. Donc nous allons passer à la pause et à 10h30, on reviendra sur la question des médias, puisque c'est cette thématique-là qui va être abordée après la pause avec Carole Van de Tribune des droits humains. Donc, bonne pause et à tout à l'heure.